Voilà, on est le 24 décembre. Je vous invite à trouver l'évangile de Luc, deuxième chapitre. Nous allons lire quelques versets à la fois, mais nous allons d'abord prier. Seigneur, merci de nous permettre d'être dans ta maison, avec ta parole, avec des frères et sœurs, des amis, la famille. Seigneur, merci aussi car tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu nous as donné ton esprit. C'est pourquoi nous te prions de nous parler, de nous instruire, de nous rappeler peut-être des choses qu'on a su il y a longtemps, mais qu'on a oubliées. Seigneur, aide-nous à nous mettre à ton écoute ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. L'évangile de Luc, chapitre 2, on va lire les 20 premiers versets, mais un bout à la fois. Donc, je propose une première lecture, versets 1, 2 et 3. Et pour chaque lecture, j'ai un petit titre. Versets 1, 2 et 3, « Dieu est derrière une loi ». Je lis, Luc 2, verset 1. « À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. » Dieu derrière une loi. Est-ce que Dieu est derrière toutes les lois de tous les pays? Non. Mais Dieu était derrière cet édit-là, cette loi-là, à ce moment-là. L'évangéliste Luc, qui était aussi médecin, il a pris le soin d'insérer son récit dans l'histoire. Et à l'époque de la naissance de Jésus, l'empereur s'appelait Auguste, hein, il était successeur de Jules César, et prédécesseur de Tibère, Caligula, Claude, Néron, et ainsi de suite. Auguste s'appelait, à vrai dire, Gaius Octavius. En tout cas, il était empereur pendant plus de 40 ans, et c'est lui qui a dit, il faut un recensement de tout l'Empire. Il est fait mention aussi d'un certain Quirinius, qui était gouverneur de la Syrie. Et on peut se dire, mais pourquoi parler de la Syrie quand on parle de Bethléem, de Nazareth et tout ça? Eh bien, il y a simplement deux raisons. C'est parce que Luc habitait à Antioche, qui était capitale de la Syrie à l'époque. Et la deuxième raison, c'est que la Syrie faisait partie d'une province de l'Empire romain, et dans cette province, il y avait la Palestine. Donc, ça faisait partie d'un même pays, plus ou moins. Donc, il parle de ce gouverneur Quirinius, et c'était une loi qui était dans l'histoire. Luc n'est pas en train d'écrire une histoire, ou des histoires, il est en train d'écrire l'histoire, avec un H majuscule. Dieu derrière une loi. Est-ce que vous pensez à d'autres lois dans la Bible qui ont été inspirées par le Seigneur? Les 10 commandements, une loi pour le peuple, pour le monde, mais d'autres lois spécifiques pour tel ou tel pays. Le retour en exil. Cyrus, un roi païen, a dit, les juifs peuvent repartir chez eux. Une autre loi, de la part d'un roi païen, Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 3, il a ordonné que tout le monde devait prier l'Éternel. Que c'était illégal, interdit de prier des statues. Si une loi sortait comme ça aujourd'hui, hein, on se réjouirait. En tout cas, Dieu n'est pas derrière toutes les lois. Dieu permet toutes les lois. Mais Dieu est derrière certaines lois. Versets 4 et 5. La recherche d'un toit. Dieu derrière une loi. La recherche d'un toit. Versets 4 et 5. Je reprends la lecture. Joseph aussi montait de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. La recherche d'un toit. Alors, j'ai trois remarques ici. D'abord, une remarque d'ordre géographique. Ils habitaient à Nazareth, dans le nord, et ils montent à Bethléem, dans le sud. Alors, s'agit-il d'une contradiction? Est-ce qu'il est possible de monter du nord au sud? Eh bien, j'ai appris, grâce à un tonton de Brigitte, qu'il est possible de monter du nord au sud. Je m'explique. Autrefois, nous habitions dans le Pas-de-Calais, et tonton René, qui habitait à Chambéry, quand on se voyait, il nous disait, « David, quand est-ce que tu vas remonter nous voir ?» Et j'ai dit, « Tonton René, je me permets de te donner un cours de géographie. On est dans le nord, on ne va jamais monter dans le sud. » Et tonton René me dit, « Mon cher David, je vais me permettre de te donner un cours de géographie. Chambéry, l'altitude de Chambéry est plus élevée que l'altitude d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Donc quand tu viendras me voir, tu vas monter vers moi. » Alors je me suis fermé la bouche et je me suis mis à genoux presque devant tonton René. Eh bien, Nazareth, l'altitude de Nazareth est de 347 mètres. L'altitude de Bethléem est de 777 mètres. 3 fois 7, c'est curieux, hein? Donc, Joseph et Marie sont bien montés du nord jusqu'au sud, de Nazareth jusqu'à Bethléem. Et si vous voulez connaître d'autres choses au sujet de Bethléem, Bethléem est jumelée avec 4 villes françaises. Chartres, Lourdes, Montpellier, et un quatrième dont j'oublie le nom, mais est une petite ville sans signification, je pense. Une remarque sur d'ordre, non, c'est pas avec Thiel, non. Une remarque d'ordre géographique, une remarque d'ordre historique. Pourquoi aller à Bethléem? Eh bien, on vient de lire, chacun devait s'inscrire dans sa ville d'origine. Verset 3. Les ancêtres de Joseph, et on a la liste, venaient de Bethléem. Son ancêtre le plus important, pour ainsi dire, c'était le roi David de Bethléem. Les ancêtres de Marie venaient de Bethléem. Son ancêtre le plus important était le roi David de Bethléem, un jeune berger à l'époque. Donc c'était logique qu'ils aillent s'inscrire pour le recensement dans leur ville d'origine. Alors heureusement, avant la naissance de nos enfants, Brigitte et moi, on n'était pas obligés d'aller s'inscrire dans nos villes d'origine. Sinon, Brigitte aurait accouché toute seule à Aix-les-Bains, parce que je suis là dans un petit village de mineurs perdu au centre de l'Écosse. Ce n'était pas le cas. Mais pour Joseph et Marie, heureusement, ils venaient de la même ville, de la même région, et ils partent dans ce village de Bethléem, qui aujourd'hui est une ville très importante. Bethléem, ce n'est pas la première fois qu'on parle de Bethléem dans la Bible. La première fois qu'on parle de Bethléem dans la Bible est dans Genèse, chapitre 35. Il est question de Bethléem aussi dans le livre de Josué, dans les Juges, dans Ruth, dans 1 Samuel, dans 1 Chronique, et la dernière référence à Bethléem dans l'Ancien Testament est dans le petit prophète qui s'appelait, j'ai entendu, Michée, qui a prédit que Jésus naîtrait à Bethléem des siècles avant sa naissance. Donc une remarque d'ordre géographique, une remarque d'ordre historique, une remarque d'ordre pratique. Ils cherchaient un toit. Ils arrivent à Bethléem. Et selon le récit de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, eh bien Matthieu nous explique qu'il n'y avait pas de place aux hôtels, aux auberges. Holiday Inn était au complet. Les Radisson Bleu, Hôtel Mercure, tous n'avaient plus de place. Et ils auraient peut-être pu essayer Airbnb, mais vous savez, la législation à l'époque imposait des taxes sur ceux qui louaient leur chambre. Donc Airbnb à l'époque, comme aujourd'hui, était en pleine crise. Où trouver un toit? Eh bien, quand on a un besoin, le Seigneur voit le besoin, il prévoit le besoin et il pourvoit au besoin. Et pour ce jeune couple qui attendait leur premier enfant, Dieu voit leurs besoins. Il avait tout prévu. Et il pourvoit à leurs besoins d'un toit. Et ils ont pu trouver un toit. On n'a pas beaucoup de détails, mais on sait qu'ils ont eu un toit. Troisième chose, deux deviennent trois. Verset 6 et verset 7, je lis. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Deux deviennent trois. Il est né, le divin enfant. Chantons tous son avènement. Un plus un plus un, ça fait trois. Je me suis parfois demandé si Joseph et Marie devaient choisir un verset pour leur faire part de naissance. Quel verset auraient-ils choisi? Alors, ils auraient été limités aux 39 livres de l'Ancien Testament, déjà. Je vous laisse réfléchir. Quel verset auriez-vous choisi si vous n'aviez que l'Ancien Testament? En tout cas, deux deviennent trois, et Galate nous dit, « Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. » Lorsque le moment est vraiment venu, à ce moment-là, il y a des raisons précises pour lesquelles ce moment-là, c'est ce moment-là que Dieu a choisi pour la naissance de son Fils. Le Maître de l'univers, le Tout-Puissant, a choisi ce moment-là. Il est écrit, Marie a habillé son premier-né. J'aimerais juste mentionner quelque chose. Luc aurait pu écrire « Marie a accouché de son enfant unique ». Mais si Luc avait dit ça, il se serait gravement trompé. On trouve cette phrase « enfant unique » plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Je pense à Jaïrus. Il avait une fille qui était malade et les évangiles nous disent « c'était son enfant unique ». On pense à une petite veuve du village de Nain. Elle avait un enfant. Et la Bible nous dit que c'était son enfant unique qui est mort et que Jésus est ressuscité. Nous pensons à un papa dont un garçon était terrorisé par les démons. Il est écrit, son enfant unique était terrorisé par les démons et Jésus l'a guéri, Jésus l'a délivré. Mais par rapport à Jésus, il n'est jamais écrit qu'il était l'enfant unique de Marie. Et c'est parce que, d'une part, Marie a eu d'autres enfants par la suite. On connaît les noms des garçons déjà. C'était une famille très nombreuse. Elle a eu d'autres enfants de façon naturelle. Et Luc savait qu'il ne croyait pas à la virginité perpétuelle, éternelle de Marie. Parce qu'il savait que Marie a eu d'autres enfants par la suite. C'est un petit détail, mais qui a quand même toute son importance. Jésus était le premier né chez Luc, pardon, chez Joseph et Marie. Deux deviennent trois. Des bergers en émoi. Versets 8 et 9. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent tous saisis d'une grande frayeur. Être en émoi signifie être troublé par la crainte ou par l'inquiétude. Et on peut comprendre ces bergers. Ils avaient passé une journée fatigante. C'était l'heure de la tisane du soir. Et un ange, et puis tout un groupe, toute une foule d'anges apparaissent. Un ange parle et les autres chantent. Quel dérangement de leur petite soirée tranquille. Des visiteurs tout à fait, complètement inattendus. Et ils étaient en émoi. Mais suite à ce qu'ils ont entendu, ils ont agi. Une foule d'anges après l'arrivée d'un seul. Des bergers en émoi. Ensuite, une source de grande joie. Versets 10, 11, 12, 13, 14. Je lis. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » La naissance de Jésus, selon les anges, serait une source de grande joie. Ou d'autres versions, un sujet de grande joie. Et les deux versions sont tout à fait exactes. La naissance de Jésus est un sujet de grande joie, mais la naissance de Jésus est une source de grande joie. Joie pour le monde, le Christ est né. On le chante parfois à cette époque-ci. Un des chants que nous avons choisi pour notre mariage, c'était un vieux cantique, « Chrétien, réjouis-toi ». Il y a 34 ans presque. « Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi. » Regarde à lui sans cesse. En son amour, chrétien, réjouis-toi toujours. Pourquoi la naissance de Jésus est-elle une source de grande joie? Ah ben, il y a de nombreuses raisons. Vous pouvez y penser déjà. Vous pouvez les énumérer dans votre tête. Mais déjà, on a le pardon des péchés grâce à la naissance de Jésus. On est délivré de nos ténèbres grâce à la naissance et grâce à la mort de Jésus. Nous pouvons être libérés du pouvoir de Satan. Nous avons la victoire sur la mort, sur la tentation, grâce à la naissance, grâce à la mort de Jésus. Et puisqu'il s'appelle aussi Emmanuel, nous avons la garantie de sa présence tous les jours, matin, midi, et soir. Ça, c'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est pas seulement une très bonne nouvelle, c'est pas seulement une hyper bonne nouvelle, mais je dirais que c'est une méga bonne nouvelle. La naissance de Jésus, une source de grande joie. Et Jésus est appelé ici au verset 11, Sauveur, Messie et Seigneur. Alors ce mot Sauveur, dans l'Ancien Testament, était souvent employé pour décrire les juges qui ont sauvé Israël de leurs oppresseurs, de leurs ennemis. Mais dans les prophètes, le mot sauveur est utilisé pour décrire Dieu, qui est le seul sauveur. Donc les bergers ont entendu, mais Dieu est sauveur, mais ce bébé, lui aussi, il est sauveur. Il est appelé le Messie. Un rappel des textes de l'Ancien Testament, un roi va venir. Et Jésus étant dans la lignée de David, il aurait pu monter sur le trône d'Israël à cette époque-là, s'il y avait encore un trône. Et il est appelé aussi le Seigneur, un titre réservé à Dieu seul. Les anges ne se sont pas trompés. Les bergers ont bien compris que Jésus serait sauveur au même titre que Dieu le Père. C'est pour ça qu'on peut dire Jésus, sauveur, Messie et Seigneur, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, ce n'est pas seulement une très bonne nouvelle, ce n'est pas seulement une hyper bonne nouvelle, mais c'est une méga bonne nouvelle. Ce bébé, sauveur, Messie et Seigneur. Il y a un mois, nous étions dans une église en Écosse, une église ethnique. C'était une église que pour les ressortissants d'un pays. Un pays au Moyen-Orient où il est presque interdit d'être chrétien. Et cette église, ils étaient une quarantaine le soir où nous étions. Il y avait deux ou trois étrangers comme nous. Mais sinon, tous les gens étaient de ce même pays que je n'avais pas nommé. Eh bien, les gens qui fréquentaient cette église avaient quitté leur pays, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons éthiques, soit pour des raisons religieuses. Et une des dames qui était présente, elle s'appelle Dori. C'est pas son vrai nom. Mais elle a choisi le nom Dori parce qu'elle avait quitté son pays. Elle est arrivée en Écosse. Elle a commencé à apprendre l'anglais. Comme quoi, en Écosse, on peut apprendre l'anglais, hein, malgré tout. Et puis, elle a rencontré une compatriote, à vie, convertie, évangéliste. Et Dori, en discutant avec Avi, elle s'est rendue compte, parce qu'elle avait quitté son pays pour des raisons éthiques, on va dire. Elle aurait dû être lapidée pour adultère dans son pays d'origine. Elle a fui son pays, elle arrive en Écosse, elle rencontre Avi. Avi lui parle de Jésus. Et Dori se rend compte, mais Jésus, il va devenir mon sauveur, mon roi et mon Seigneur. Dori s'est convertie. Elle a dit à tout le monde, appelez-moi Dori, parce que Dori signifie dans ma langue d'origine, étoile qui brille. Elle a dit, je veux briller pour Jésus, parce qu'il a transformé ma vie. Et dans quelques semaines, Dori va se faire baptiser dans cette église ethnique. Fiona les connaît, toutes les deux. Jésus est sauveur, Messie et Seigneur. Ensuite, la naissance d'un roi. Versets 15 et 16, je lis. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller. Ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Vous avez peut-être remarqué que les anges n'ont pas dit « Allez-y ». Les anges ont fait connaître ce qui venait de se passer. Et c'était aux bergers de décider « On y va ou on n'y va pas ?» Ce sont des hallucinations ou c'était vrai ? Eh bien, bien sûr, ils se sont déplacés. Les anges s'en vont, les bergers s'en vont. Et vous avez remarqué la confiance, on va y aller parce que c'est Dieu qui nous a parlé. Le Seigneur nous a parlé. Ils ont cru tout de suite à la parole de Dieu. Et ils vont aller chercher Jésus dans son lieu de naissance. Alors, est-ce que Jésus est né dans la meilleure maternité du pays? Est-ce que Jésus était entouré de sages-femmes, de gynécos, de... comment ça s'appelle, les infirmières qui s'occupent des nouveaux-nés? Péricultrices, c'est ça le mot que je cherche. Merci, péricultrices. Est-ce qu'il y avait un anesthésiste sous la main au cas où il fallait faire une césarienne? Est-ce que les journalistes étaient dehors? Est-ce que Marie était suivie chaque semaine pour sa grossesse? Est-ce qu'il est né dans des conditions d'hygiène optimales? Est-ce que Jésus n'avait aucune possibilité d'attraper une maladie nosocomiale? Quelque chose comme ça. Bien sûr, je ne suis pas en train de décrire la naissance de Jésus. Je suis en train de décrire la naissance du prince George, fils de William et Kate Middleton, héritier du trône de l'Empire britannique et après son grand-père et son père. Jésus n'est pas né dans ces conditions-là. Sa naissance n'a pas fait la une des journaux. Même sa mort est presque passée inaperçue. Mais n'empêche que c'était la naissance d'un roi. Jésus, le roi, est né. Et trois fois dans ces versets, on fait allusion à son ancêtre David, pour souligner, pour appuyer le fait que Jésus n'était pas seulement un bébé comme les autres, mais Jésus était le roi. Il est appelé parfois le prince de la paix, mais même le jour de sa crucifixion, vous savez ce que Pilate a fait mettre au-dessus de sa tête? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et quand on l'a critiqué pour qu'il enlève ça, il a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Point. Pour une fois, il a montré du courage, cet homme-là. Jésus, le roi, est né. Et ça fait du bien parfois de penser à lui, même si on vit dans une république, de penser à ce que c'est d'avoir un roi dans la vie, dans le cœur. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant un moment de crise au niveau britannique, un chrétien a écrit une pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre s'appelait « L'homme qui est né, qui est destiné à devenir roi ». Une pièce de théâtre sur la vie de Jésus. Et à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de télé ou pas de télé du tout. Donc la BBC a décidé de jouer avec des acteurs professionnels devant les micros pendant plusieurs semaines, en décembre 1941, cette pièce de théâtre. Et beaucoup de chrétiens ont écrit la BBC, et beaucoup de non-chrétiens ont écrit la BBC pour dire merci, merci, merci pour cette pièce de théâtre. Parce que ça nous a permis d'oublier la guerre et de se concentrer sur ce bébé qui est né, qui était destiné à devenir roi. Et je peux vous dire que si on enlève nos yeux de nos soucis et on pense plutôt au Seigneur Jésus, ça nous aide à contextualiser ce que nous vivons. Et ça nous permet aussi de lui soumettre nos soucis, nos fardeaux et tous nos problèmes. Je termine, versets 17 à 20. Luc 2, 17 à 20. Après l'avoir vu, les bergers racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui l'entendirent furent étonnés de ce qu'il disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Un message de foi. Les disciples sont avec Marie, Joseph, bébé Jésus et sans doute d'autres personnes qui étaient présentes à ce moment-là. Il ne s'agit pas des mages parce qu'ils sont venus plus tard. En tout cas, il y a quatre choses ici. Déjà, il y a du monde. Les bergers, Joseph, Marie et d'autres personnes présentes parce qu'il est question de tous ceux qui ont entendu les bergers. Il ne s'agit pas que de deux personnes, mais de tous ceux qui étaient là. Un moment de communion fraternelle. Ensuite, il y a du buzz. Les bergers racontent cette rencontre miraculeuse. Et je me demande comment ils ont raconté ça, cette rencontre avec les anges. Mais en racontant ce que les anges avaient dit, ils confirment l'identité de Jésus, Sauveur, Messie et Seigneur. Mais il y a aussi, troisièmement, du silence. Marie, peut-être, ne dit pas grand-chose. Mais il est écrit qu'elle écoutait et elle gardait ces choses dans son cœur. Elle les méditait. Je crois que dans la vieille version seconde, il est écrit « Marie repassait ces choses dans son cœur ». Et bien sûr, si vous savez repasser, hein, on repasse, on revient, on revient jusqu'à ce que la chimie soit parfaite, ou la couverture soit parfaite, ou peu importe. Eh bien, Marie est repassée à méditer cela. Et cela fait du bien de réfléchir et de méditer des textes bibliques, la naissance de Jésus, la mort de Jésus, l'amour de Jésus. Et après ce temps de méditation, de discussion et de partage, de témoignage, il y a un moment de louange. Louange adressée à Dieu. Les bergers louent le Seigneur à cause de ce qu'ils avaient entendu et vu. Mais c'est formidable, Seigneur. Tu nous as choisis. C'est formidable. Nous te louons, Seigneur. Ensuite, les bergers louent le Seigneur pour ce qu'ils venaient de voir. Mais c'est vrai, ce bébé vient de naître. Les anges ne se sont pas trompés. Et puis, ils ont loué le Seigneur ensemble parce que Dieu n'a pas dit le mensonge. Dieu a dit ce qui était vrai. Et ils ont pu voir de leurs propres yeux. Mais c'est vrai. Vous savez, Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Eux, ils ont vu, ils ont cru. Et ceux qui n'ont pas vu, eh bien, c'est tous ceux qui ont vécu depuis 20 siècles qui croient en Christ. Le bonheur pour ceux-là, pour nous et pour tous ceux qui croient sans avoir vu. Donc, comme je disais au début, là, il ne s'agit pas d'une histoire. On peut raconter cette histoire à des enfants, c'est bien. Mais il s'agit de l'histoire. Quelque chose qui s'est vraiment passé. Et même si on n'a plus le droit de dire en public, plus ou moins, aujourd'hui c'est après Christ et avant Christ, c'était avant Christ, on parle de notre ère et avant notre ère, on ne peut pas nier que, historiquement parlant, Jésus est né. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Jésus est monté au ciel. Et un jour, lorsque le moment sera vraiment venu, Jésus va revenir. Dieu décidera ce moment-là, comme il a décidé le moment de la première venue de Jésus. Et quand Jésus va revenir, eh bien, il n'y aura aucune question quant à son identité. Tous le sauront. Tout le monde le saura. Tous sauront qui c'est cet homme-là. Je conclue. En 1968, donc il y a 49 ans, aujourd'hui, le 24 décembre 1968, là-haut, dans le ciel, il n'y avait pas d'ange, mais il y avait Apollo 8. Et Apollo 8 était en train de, il venait de faire le tour de la Lune, je crois, 7, 8, 9 fois, en quelques heures. Et allait revenir sur Terre, à la fin de sa mission. Et le 24 décembre 1968, les responsables de la NASA aux États-Unis, ils ont dit aux astronautes là-haut, écoutez, le monde entier vous écoute. Certains vous regardent, mais le monde entier vous écoute. Eh bien, donnez un message pour tout le monde qui vous écoute ce soir, aujourd'hui. Et les astronautes, les trois, savaient qu'ils devaient livrer un message au monde entier ce jour-là, la veille de Noël. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Eh bien, d'abord, ils ont parlé du Dieu créateur qui a créé la Terre et la Lune. Ils ont lu Genèse, chapitre 1. C'est de ça leur message pour la Terre. Pas tout, mais une bonne partie de Genèse, chapitre 1. Et puis, ils ont dit, de la part de tout l'équipage de Apollo 8, nous terminons en disant bonne nuit et un joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse la bonne vieille Terre. Comment conclure ce culte ce matin? Je ne vais pas dire Genèse 1, mais je vais dire, et je les cite, joyeux Noël, que Dieu vous bénisse tous, et même si nous sommes en train de détruire la bonne vieille terre, que Dieu bénisse la bonne vieille terre. Prions. Seigneur, merci car tu t'occupes de notre toit. Tu sais quand nous sommes en plein émoi. Et merci car tu es un Dieu qui pourvoit. Merci Seigneur parce que tu vois nos besoins aujourd'hui même, ici dans cette salle. Tu vois d'où nous venons et où nous allons. Seigneur, aide-nous à te faire connaître nos besoins. Aide-nous à croire que tu es un Dieu qui parle et qui dit la vérité et qui tient ses promesses. Merci Seigneur pour cette première fête de Noël qui a eu lieu, qui n'était même pas une fête, mais qui était une naissance. Merci pour Jésus, le Sauveur, le Roi et le Seigneur. Nous te prions de nous aider, Seigneur, aujourd'hui et tous les jours, à nous laisser conduire par notre Seigneur Jésus, notre Sauveur Jésus, et qu'il soit roi dans notre vie et dans toutes nos décisions, car nous voulons être fidèles à notre roi. Nous te prions ainsi, en son nom et pour sa gloire. Amen.